Qui n'a jamais poursuivi des voleurs de tableaux à bord d'une gondole ne pourra imaginer l'état dans lequel nous nous trouvions. Monsieur Coruscant s'était mis à chanter, pesant sur la perche, avec une force dont je n'aurais pas cru capable cet homme à lunettes et gilet de flanelle. Le pire est que nous avancions, d'abord en zigzag, puis de plus en plus droit, tandis que devant nous, le gondolier des ravisseurs se déhanchait comme un beau diable. En dépit des efforts de Monsieur Coruscant, il devenait évident toutefois que nous nous perdions un peu plus de terrain à chaque coup de perche. Comment lutter contre un professionnel à chapeau de paille? De droite et de gauche s'ouvrait un labyrinthe de petits canaux, juste assez larges pour nos embarcations. Avec une habileté diabolique, le Vénitien virait à la dernière seconde, obligeant notre professeur à des manœuvres compliquées pour reprendre sa trace. Rien, cependant, ne semblait devoir affecter sa bonne humeur. « Allons, nos tonniers des âmes » déclamait-il de sa voix de stentor. « Fais voler ton esquif, Caron, sur les eaux noires du Styx !» Impuissant, je voyais s'amenuiser la plume de faisan de l'inconnu du train. Son complice ricanait en agitant un mouchoir, surveillant du coin de l'œil un pépé qui semblait anéanti par la terreur ou le mal de mer. « Vite, plus vite !» criait Mathilde. Mais nous étions trop chargés, surtout du côté de Monsieur Colibri, où l'eau affleurait au niveau des plats-bords. Déjà, le canal s'élargissait, on devinait au bout un coin d'azur illuminé. C'était la lagune. Sans nous en apercevoir, nous avions décrit un large cercle à l'intérieur de la ville pour revenir à notre point de départ, le temps d'utiliser les forces de M. Coruscant qui haltelait maintenant, en rasant dangereusement les maisons. Tout était perdu. Soudain, une exclamation de Mathilde me tira de mon abattement. « Là-bas, dans la gondole, des ravisseurs !» Une forme s'était dressée brandissant quelque chose au-dessus de sa tête. « C'est des coulbères !» glapit Monsieur Colibri. « Regardez, il menace d'ailleter le tableau à l'eau !» En effet, c'était Pierre-Paul debout dans la gondole. Il tenait en respect les ravisseurs de la seule arme qui fut en sa possession. La toile de Longhi. « Fantastique, Pépé ! Interdit, les deux hommes ne bougeaient pas. Allait-il faire cette chose inouïe ? Jeter dans les eaux troubles du canal l'un des joyaux du patrimoine artistique mondial ?» Je savais Pépé capable de tout, même d'un acte aussi insensé. Chacun autour de moi retenait son souffle. « Attention !» hurla soudain Mathilde. Mais c'était trop tard. Le gondolier avait tiré silencieusement sa perche de l'eau et s'apprêtait à assommer le pauvre Pépé, inconscient de la menace qui planait dans son dos. La gondole, à cet instant, passait sous un pont, le dernier avant l'étendue bleue de la lagune. La perche se prit dans la balustrade. Le gondolier vacilla, parut se rétablir, puis moulinant des bras, sombra dans un grand plouf au beau milieu du canal. « Ouah !» lança M. Coruscant. « Ils chavirent !» En effet, se voyant perdus sans leur pilote, les ravisseurs tentèrent d'agripper les piles du quai et de gagner la terre ferme. Peine perdue. Déséquilibrée, la gondole tanga violemment, projetant les deux hommes à la mer, tandis que Pépé raccrochait à la corne dentelée de la poupe. En quelques coups de perche triomphant, l'eau fume sur lui, laissant les deux hommes patauger dans l'eau glacée, les pans de leurs manteaux déployés autour d'eux comme de gigantesques feuilles de nénuphars.